לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Buenas noches, Shavu a todos para todos. Soy Edi Junovich informando para Radio Reca en español y esta es la actualización informativa de las 9 de la noche. Israel y Estados Unidos están coordinando sus actividades de defensa aérea en preparación para un posible contraataque de Irán. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense están cooperando a la hora de detectar e interceptar un ataque balístico, así como ataques con drones y vehículos aéreos no tripulados. Un alto funcionario de la administración Biden dijo que Washington estima que Irán atacará muchos objetivos en Israel y que las proxies, las organizaciones que operan bajo sus auspicios, también participarán en el ataque. Los funcionarios estadounidenses dijeron que en los últimos días Irán ha preparado más de 100 misiles de crucero y una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados. Directrices para un posible ataque de Irán. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Daniel Agari, anunció un cambio en las directrices del comando del Frente Interior en el contexto de los preparativos para un ataque iraní. Al final de una evaluación de la situación, se decidió que a partir de esta noche, a las 23 horas, se realizará un cambio en la política de defensa del comando del Frente Interior. Como parte de los cambios, se decidió prohibir las actividades educativas en todo el país, de las zonas verdes, limitando las reuniones a 1,000 personas. Se informó. Agari enfatizó, en los próximos días no se deben realizar actividades educativas, no importa desde dónde se lanza la amenaza, si suena una alarma, se le pide que ingrese a un área protegida y permanezca allí durante 10 minutos, afirmó Agari. El presidente estadounidense Biden dice que Washington está comprometido con la seguridad de Israel y que ayudará a protegerlo e Irán no tendrá éxito. El mensaje de Irán, no lo hagan, sostuvo Biden a los periodistas. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán tomó el control de un barco conectado con Israel. El barco, que enarbolaba bandera de Portugal, se dirigía a aguas territoriales de Irán. El gobierno de la India se puso en contacto con las autoridades iraníes para garantizar la seguridad y el bienestar de 17 tripulantes hindúes que se encontraban en el barco y para lograr lo más rápido posible su liberación. Las fuerzas de seguridad están llevando a cabo ahora una búsqueda de los terroristas que asesinaron a Benjamín Aymeir, de 14 años. Su cuerpo fue encontrado muy cerca de la finca Ángeles de la Paz, en la zona de Shiloh, de donde salió ayer a pastar con su rebaño. En las últimas horas se han desarrollado enfrentamientos entre ciudadanos israelíes y palestinos en varias localidades de Judea y Samaria, tras el asesinato del niño. Durante los enfrentamientos, los participantes arrojaron piedras y dispararon munición real. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel afirma que decenas de palestinos e israelíes resultaron heridos. Muchas fuerzas de la Fuerza de Defensa de Israel y de la Policía de Frontera se desplegaron en las distintas zonas y utilizaron medidas para dispersar las manifestaciones. Por el momento, todos los acontecimientos han terminado. Además de las fuerzas desplegadas en la zona, se decidió reforzar varias compañías del ejército y de la Guardia de las Fronteras. La Unión Europea impuso sanciones al brazo militar de Hamas y la yihad islámica debido a la violencia sexual a gran escala del 7 de octubre. Se congelarán los activos de las brigadas Al-Quds, las brigadas Al-Qassam y la fuerza Nojba, y se prohibirá a su gente viajar a los países de la Unión Europea. Los familiares de los secuestrados piden que el primer ministro Netanyahu sea reemplazado por un líder responsable, que según ellos logrará un acuerdo para la liberación de los secuestrados. En una declaración que dieron en Tel Aviv, agregaron que si el precio del regreso de sus seres queridos rápidamente y con vida es el fin de la guerra, debe terminarse ahora. En sus palabras, se refirieron al programa televisivo Ubda, en el que se difundieron testimonios del equipo negociador, según los cuales Netanyahu está arruinando el acuerdo. Él está arruinando un acuerdo deliberadamente por razones políticas y todos vemos el resultado. Los secuestrados son abandonados al abuso y a la muerte, afirmaron. 3 personas murieron y varias resultaron heridas anoche y esta noche en una serie de incidentes violentos dentro de la sociedad árabe. En un tiroteo en Esfia, en el norte, 2 personas murieron y en un tiroteo en la aldea de Yasif, en Galilea, un hombre murió anoche y otros 4 resultaron heridos. Hasta aquí la información actualizada del día sábado. Nos reencontramos mañana a las 14 horas de Israel. Pueden vernos a través de YouTube en kan.reca.official. Que tengan una noche agradable y tranquila. Shalom desde Jerusalén.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver. Il est 21h05 au micro Yael Bornstein. En technique avec moi, Ala, vous êtes sur Cannes en français. Et nous vous donnons les nouvelles de ces dernières 24 heures. L'école, les sorties et les camps de vacances sont annulés demain en Israël suite à une évaluation de la situation. Il a été déterminé qu'à partir de 23h, heure israélienne ce soir, les changements seront apportés aux directives de défense du commandement du front intérieur. Dans le cadre de ces changements, il a été décidé d'interdire les activités éducatives dans tout Israël, dans les zones vertes. Tous les rassemblements seront limités à 1000 personnes. Le corps de Binyamin Achi Meir, l'adolescent israélien disparu depuis hier matin, a été découvert aujourd'hui en début d'après-midi. L'armée israélienne estime qu'il a été assassiné hier pour des motifs nationalistes, probablement peu après avoir quitté la ferme vers 6h du matin pour faire paître son troupeau. Son corps portait des traces de violence, suggérant qu'il s'est débattu contre ses agresseurs. Des effets personnels ont été retrouvés près de sa dépouille. La police et le Shin Bet ont ouvert une enquête. Après la découverte du corps, des émeutes d'une violence exceptionnelle ont éclaté dans plusieurs villages palestiniens en Cisjordanie, notamment à Al-Mughayir et Douma. Des Israéliens, dont certains avaient le visage masqué, ont pénétré dans ces villages, incendiant des bâtiments, des véhicules et des terres agricoles. Les Palestiniens ont fait état d'au moins 6 blessés par balle, mais il n'est pas encore établi s'ils ont été touchés par les forces de sécurité ou par des tirs de civils israéliens. Hier déjà, lors des recherches pour retrouver l'adolescent israélien porté disparu d'ailleurs, avait été éclaté dans plusieurs localités palestiniennes, en particulier à Abu Falah et à Al-Mughayir. Dans ce dernier village, un Palestinien a été tué par les forces de sécurité israéliennes. Un Israélien a été grièvement blessé par balle et de nombreux autres blessés ont été recensés de part et d'autre. À Douma, un Palestinien a été grièvement blessé par balle, mais les circonstances exactes de cet incident, les tirs de Tzal ou bien d'autres juifs, doivent être encore éclaircis par une enquête. Des affrontements ont été aussi signalés dans ce village avec des terres agricoles incendiées selon des témoignages palestiniens. Des tensions ont également été rapportées à Dir Dibouane, près de Ramallah. Je rappelle la directive du front de commande qui a été annoncée ce soir suite à une évaluation de la situation. À partir de 23h ce soir, les changements sont apportés aux directives de défense du commandement du front intérieur. Dans le cadre de ces changements, et à partir de maintenant et jusqu'à une date illimitée, il a été décidé d'interdire les activités éducatives dans tout Israël. Je rappelle que même dans les zones vertes, les rassemblements sont limités à 1000 personnes uniquement. Des commandements iraniens ont pris d'assaut un navire partiellement détenu par des Israéliens près du détroit de Hormuz. Aujourd'hui, l'agence de presse AP a obtenu une vidéo montrant des forces spéciales attaquant le navire par hélicoptère. Le navire impliqué est apparemment le MSC Aries, un porte-conteneurs lié à la compagnie maritime Zodiac du milliardaire israélien Eyal Ofer. Une source sécuritaire du Moyen-Orient a déclaré que l'Iran était derrière cette action et que c'était elle qui avait partagé la vidéo avec les journalistes de l'AP. Cependant, l'agence de presse précise qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les détails de manière indépendante. En outre, plus tôt dans la journée, un incident similaire a été signalé impliquant un navire dans le golfe d'Oman à environ 50 miles nautiques de la ville portuaire de Food Jaira aux Émirats Arabes Unis, l'agence britannique du commerce maritime a indiqué que des forces de la région auraient pris contrôle de ce navire. Ces dernières années, l'Iran, je vous le rappelle, a été impliqué dans une série d'incidents de prise de contrôle de navires et de pétroliers dans la région du Golfe Persique. Mais pour l'instant, l'Iran n'a pas reconnu son implication. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il a été déterminé qu'à partir de 23h ce soir, une nouvelle évaluation de la situation a été décrétée de la part du commandement du front intérieur, que dans le cadre de ces changements, il a été décidé d'interdire les activités éducatives dans tout le pays. Dans les zones vertes, les rassemblements sont à partir de maintenant limités à 1000 personnes. Merci de nous avoir suivis sur Canon Français, au micro Yael Bornstein. Shavuatov depuis Jérusalem.
Bonsoir docteur Ariella.
Bonsoir Yael.
Merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de notre podcast sur Canon Français de Quoi de neuf docteur Ariella. Alors la semaine dernière, on a parlé de l'hémorragie et je vous avoue qu'il y avait une question qui me restait pendue aux lèvres, c'était et alors le garrot, quand est-ce qu'on fait un garrot? Bon, d'abord expliquez-nous qu'est-ce qu'un garrot.
Alors, un garrot, c'est tout simplement un lien, d'accord, un lien qui sert à comprimer les vaisseaux d'un membre pour arrêter une hémorragie, d'accord.
Ah, donc je ne suis pas folle, ça a un rapport avec l'hémorragie, c'est-à-dire que bien ça sûr. Peut aider à arrêter l'hémorragie.
Bien sûr, mais on va en discuter probablement, mais c'est vraiment sous certaines conditions qu'on va l'utiliser. Parce que c'est un dispositif, un réel dispositif médical qui est destiné à interrompre, c'est-à-dire à arrêter la circulation du sang dans un membre en comprimant les vaisseaux sanguins par un serrage. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de la compression directe.
Ouais, ouais.
Là, en fait, c'est une compression, mais à distance. On n'appuie pas directement sur la plaie, mais indirectement, on comprime les vaisseaux et ainsi on arrive à notre but, à savoir qu'on arrête la circulation du sang et donc on arrête l'hémorragie.
C'est un peu plus agressif, si ce que je comprends.
Exactement.
Okay. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on met un garrot?
Alors en fait, il y a trois types de garrots. Il y a ce que tout le monde connaît, qui est le garrot tourniquet, mais ceux qui en ont chez eux, normalement, ils savent s'en servir. Donc, je vais rappeler quand même rapidement le protocole, mais pour faire simple, on place le garrot tourniquet autour de la jambe, on serre, on tourne le tourniquet, on surveille quand le saignement s'arrête, on bloque le tourniquet et on note l'heure. Ça, c'est pour le garrot tourniquet. Je fais vite parce que ceux qui l'ont, normalement, ils savent s'en servir.
Et c'est pas tout le monde qui l'a, j'imagine.
Voilà, exactement. Ah, par contre...
Moi, j'ai pas de garrot tourniquet chez moi.
Hein. Voilà. Par contre, si vous voulez faire un tioul dans le Negev,
okay.
Vous êtes avec votre ami Dan, et vous partez comme ça, rapidement, en vous disant, bon, bah, écoute, tu laisses ton chien pirate et on va faire le tioul. Vous partez tous les deux, et puis Dan tombe. Et là, il se fait une très grosse plaie, une hémorragie, d'accord ? Donc, un saignement qui ne s'arrête pas spontanément. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là, en fait, qu'on va faire un garrot comme un tourniquet, un garrot, mais de façon artisanale. Et comment on fait ? On trouve un morceau de tissu propre, hein, évidemment, qui doit être large, solide, pas élastique, qui doit être suffisamment résistant parce qu'il doit supporter la pression qu'on va mettre au moment de nouer, de faire le serrage. Donc ça peut être une écharpe, une cravate.
Bien sûr, parce qu'on amène toujours ça quand on va dans un tioul dans le Negev, c'est sûr.
Voilà. mais ceci dit, ça peut être, Dan tombe, et ben vous déchirez votre vêtement. Vous prenez votre vêtement, vous le déchirez. Voilà. Ce qui compte, encore une fois, c'est que ça soit large. Généralement, il faut que ça fasse 3 à 5 cm de large, 1,50 m de long. Donc, vous prenez votre grand t-shirt que vous aimez tant et vous le déchirez. Il faut que ça fasse 1,50 m et 3 à 5 cm de large. Et là, on le place un peu au-dessus de la plaie. Attention, hein, pas sur la plaie, mais au-dessus de la plaie.
Ah, ok.
Après, on...
Où au-dessus de la plaie ? Combien au-dessus de la plaie ?
5 à 7 cm au-dessus de la plaie.
D'accord.
On verra après, si vous voulez bien, les indications exactes du garrot, parce que évidemment, en temps normal, avant de lui faire le garrot dont on parle, faut quand même appuyer, faire tout ce dont on a parlé la dernière fois.
Donc, avant de décider de lui faire un garrot à mon copain Dan, je dois quand même essayer d'éviter le garrot, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et si jamais je vois que l'hémorragie ne s'arrête pas, là, je me dis, bon, pour le sauver, il faut faire un garrot jusqu'à ce que les secours arrivent.
Exactement. Et donc, on fait un double tour, 5 à 7 cm au-dessus de la plaie.
Okay.
On fait un double tour, on fait un premier nœud. Et puis après, il faut trouver un objet solide qui est autour de vous. Il doit faire 10 à 20 cm de long, à peu près. Il faut qu'il soit solide, donc dur. Ça doit être un bout de bois, un bout de métal suffisamment solide, parce que c'est ça qui va servir à serrer, d'accord, à serrer la bande que vous venez de mettre. Donc vous avez fait le double tour, vous avez fait un premier nœud, vous posez le bâton. Là, vous faites un premier nœud, un deuxième nœud. Puis vous vous mettez à serrer et à tourner. On tourne, on tourne, on tourne, comme pour le tourniquet, jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
Wow.
Et quand ça s'arrête...
Comme un robinet, en fait.
Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, ça s'arrête, et on note l'heure, et on donne l'alerte. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième, qui est quand même... ça peut arriver, vous n'avez pas de bâton autour de vous. Vous ne trouvez pas, et il faut à tout prix faire le garrot. Dans ce cas-là, on fait simple, on reste sur le morceau en tissu propre avec votre vêtement qui est déchiré, on fait la même chose, c'est-à-dire on se met au-dessus de la plaie, mais en fait là, avec le morceau de tissu que vous avez eu, là, qui fait 1,50 m de long, vous faites une boucle, vous la posez au-dessus de la plaie et vous rentrez le lien dans la boucle, dans le trou de la boucle, et vous serrez très très fort et vous faites un double nœud pour le maintenir.
Ouais.
Vous avez compris ?
Oui, j'imagine le double nœud. En fait, la différence entre celui-ci et le précédent, c'est juste que je n'ai pas un bâton au milieu.
Exactement.
D'accord.
Si vous trouvez un bâton rapidement accessible, à ce moment-là, vous faites une boucle avec votre tissu,
ouais.
Vous mettez le lien dans le trou de la boucle et vous serrez très fort. Ça peut être une ceinture aussi.
Ouais.
L'essentiel, c'est quand même de faire garrot. Mais quoi qu'il en soit... on n'oublie pas toujours, on se protège, on vérifie qu'on est en sécurité et on donne l'alerte. Et là, dans le cas précis du garrot, il faut noter l'heure à laquelle on a posé le garrot.
Alors pourquoi on note l'heure ?
Alors parce que et c'est pour ça qu'on fait toujours très attention avec les garrots, parce que ça peut entraîner des complications médicales qui ne sont absolument pas négligeables. Quand on fait un garrot, dont l'objectif est d'arrêter le saignement, on arrête certes le saignement, mais qui dit qu'on arrête le saignement dit aussi qu'on comprime, par exemple, tous les nerfs. Donc, les lésions liées aux nerfs, les lésions neurologiques, à partir de 2 heures de pose de garrot, on commence à avoir les premiers symptômes des lésions, avec des engourdissements, des picotements, et ça peut aller jusqu'à la paralysie.
Wow.
Pour tout ce qui est vasculaire, c'est-à-dire lié à la circulation sanguine, la compression des vaisseaux peut entraîner, à partir de 6 heures de pause, ça peut entraîner une gangrène et une perte du membre. Donc, c'est absolument pas négligeable. Et alors, bon, je me permets de vous expliquer une troisième complication. Après, je m'arrêterai là parce que sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres complications. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation. Le syndrome de revascularisation, c'est au moment où on enlève le garrot, à ce moment-là, tout ce qui a été comprimé dans les vaisseaux et qui a entraîné, parce qu'en fait, dans le sang, il va y avoir des déchets qui vont s'accumuler. Et au moment où on enlève le garrot, ça va tout de suite être diffusé dans le sang, puisque la circulation sanguine va se remettre en route. Et à ce moment-là, ça diffuse des déchets et on peut mourir de ces déchets-là.
Mmh.
Donc vraiment, à cause des... Je vous redis les lésions. Ça peut donner des lésions neurologiques, ça peut donner des lésions vasculaires, donc liées aux vaisseaux, Donc, et ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation, je vous le vulgarise exprès, hein, mais c'est pour que vous compreniez que vraiment...
Mais ça ne donne pas envie de faire un garrot du tout. C'est-à-dire que ça me fait peur ce que vous me dites. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est éviter à tout prix le garrot.
Non, il y a quand même des conditions quand même qui sont bien spécifiques. Hein,
pour alors, la cause... quand est-ce qu'on le met et quand est-ce qu'on ne le met pas?
Alors, c'est très simple. Déjà, là, je vous rappelle qu'on est en train de parler de tout ce qui est traumatisme, d'accord? Okay. C'est-à-dire quelque chose qui est... Bon. Mais il ne faut pas oublier que le garrot, on s'en sert aussi en médecine, hein, pour faire certains actes. On utilise des garrots, ok? Donc là, dans le cadre des traumatismes, il y a deux indications, en fait, au garrot. Il y a premièrement, en cas d'échec du pansement compressif,
okay.
C'est-à-dire que le sang continue de couler, ouais. Alors vraiment... vous avez fait un super pansement compressif. Et la deuxième indication, c'est que, en fait, la compression directe, elle n'est pas possible. Et pourquoi elle ne serait pas possible? Parce que la plaie, elle est inaccessible, on n'arrive pas à l'atteindre, parce qu'on est face à une fracture qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des os apparents ou de multiples fractures. Quand on avait parlé la semaine dernière de l'accident de VTT, et bien, ouais. Il y a des fractures un peu partout. Il y a une fracture ouverte, bon, bah, c'est garrot. Il y a aussi, très très important, dès qu'il y a un corps étranger, si Dan était tombé sur une bouteille, par exemple, et qu'il avait un gros morceau de verre, on ne touche surtout pas les corps étrangers, on ne touche pas le morceau de verre, on ne touche pas un couteau, oui. On ne le touche pas. On ne touche pas les corps étrangers et on fait un garrot. 5 à 7 cm au-dessus, on fait le garrot. Et il y a une dernière indication, c'est aussi quand on se retrouve dans une situation où il y a de multiples blessés, type une guerre, un attentat, où il y a beaucoup de blessés d'un coup, qui impliquent beaucoup de blessés. Et dans ce cas-là, on va prioriser le garrot pour une question de rapidité.
Ça, pour aller plus vite. Alors, quitte à prendre le risque de faire des dommages sur une exactement. Des victimes, mais au moins en sauver un maximum. Mais
voilà, c'est-à-dire qu'on va poser le garrot, et de toute façon, sur un terrain de guerre, on va poser, soit on pose le garrot à la personne qui est avec nous, soit on se le pose soi-même, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on est dans un environnement... De guerre, et l'objectif, les premiers secours en cas de guerre, ce n'est pas la même chose. Quand je vous parlais de protection et tout, c'est pas la même organisation quand on est sur un terrain de guerre. Et là, en fait, l'objectif, ça va être l'extraction. Ça veut dire qu'on va, on va sortir de la zone qui est dangereuse, et donc on sera à moins de 2 heures, normalement, hein, de la levée du garrot. On fera attention au moment où on va retirer le garrot. Mais il n'y aura pas de complications neurologiques, il n'y aura pas les conséquences dont je vous ai parlé, parce que ça sera suffisamment court. Vous
d'accord.
Avez compris?
Oui, absolument. Absolument, voilà. C'est très clair. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'est les cas où on accepte de mettre un garrot. Alors, je vais vous poser une question qui est d'actualité en Israël aujourd'hui. On est à l'aube de Pessah, donc le début du printemps, et les serpents sont en train de sortir de leur hibernation, et on en voit beaucoup. Alors, est-ce qu'on fait un garrot quand on a été confronté à une morsure de serpent?
Bah, je suis désolée, Yael, mais non, on ne fait pas de garrot.
Ah, waouh!
Non, il n'y a pas de garrot en cas de morsure de serpent. De la même façon, je m'autorise dans ce cas-là, si vous me parlez de ça, ça me fait sourire, mais d'un autre côté, je pense que c'est fondamental d'en parler. Je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai pu entendre, moi, ou que j'ai pu voir, même si les morsures de serpent, ce n'est pas si courant, mais on peut entendre ce genre de choses, donc je préfère quand même en parler. On ne fait pas de garrot, on ne fait pas de pansement compressif, on ne pose pas de glace, ni de pommade, ni de crème.
On suce alors la plaie?
Non, on ne suce pas la plaie non plus. On ne triture pas avec un couteau, on ne donne pas de café, d'alcool, de thé en se disant bon. et puis surtout, je suis désolée.
Je ne savais pas qu'il y en avait qui buvaient un coup après une morsure de serpent. Pardon, excusez-moi. Bon, j'imagine le type qui vient de se faire mordre par un serpent et qui se dit allez, un petit coup, on y va.
Mais si, café, alcool. J'ai entendu
ça. Je ne savais pas.
Pardon. Non, pas de souci. Et surtout, je suis désolée pour ceux qui pour qui c'est cher, hein, mais en pratique, les kits anti-venin, ça n'a pas prouvé son efficacité. Hein.
Ah, wow.
Donc, je suis désolée, mais au contraire, ça a prouvé que ça retardait la prise en charge médicale. Au contraire, parce qu'en fait, on est là à chercher le kit anti-venin. Et alors, comment on fait? Alors, comment on le pose? Et est-ce qu'il aspire? Il n'aspire pas? Et je ne sais pas quoi. Bon, en pratique, on ne donne pas l'alerte. On ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, voilà, c'est vraiment toutes ces petites idées-là préconçues autour de la morsure de serpent. Je suis désolée, mais en fait, tout ça, ça ne fonctionne pas.
D'accord. Donc, vous nous avez brisé tous les mythes. Alors, je fais quoi, moi, maintenant, avec mon copain Dan, qui, après s'être ramassé en VTT, maintenant s'est fait bouffer par un serpent. Je fais quoi?
Eh bien, écoutez, en fait, alors, c'est très compliqué ce que je vais dire, parce qu'en médecine, tout ce qui est simple, c'est toujours le plus complexe. Mais en fait, ce qu'il faut faire en cas de morsure de serpent, c'est de rester calme. L'essentiel, c'est de rester calme, d'allonger le blessé et de donner l'alerte. Pourquoi, Yael? Pourquoi il faut rester calme et rassurer l'entourage?
Parce alors, qu'en fait, oui, allez-y. Non, je pensais que vous me posiez la question et j'essayais d'être bonne élève.
Parce que, en fait, tout ce qui peut entraîner une accélération du rythme du cœur, c'est-à-dire qu'il soit debout, qu'on lui donne du café, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut accélérer le rythme cardiaque, en fait, ça va favoriser la diffusion du venin. Et il faut savoir que je préfère quand même rassurer les gens autour des serpents. Hein. Il y a quand même c'est 50% seulement des serpents qui vont libérer du venin. Hein. Sinon, c'est de la morsure simple. C'est que des symptômes locaux. Oui. Mais quand bien même, et vraiment, je veux vous rassurer là-dessus, et c'est tout l'objectif, entre guillemets, du traitement de la morsure de serpent. Je veux vous rassurer dans le sens où, à moins que Dan soit allergique, et dans ce cas-là, il le sait, parce qu'il a son stylo anti-allergique sur lui, en dehors de l'allergie à des produits qu'il y a dans le venin de serpent, les symptômes qu'il peut y avoir en cas en cas de diffusion du venin, ça met quelques heures, voire quelques jours à apparaître.
Oui, enfin, il ne faut pas être en Australie hein, pour dire ça.
Ah, peut-être.
D'accord.
Mais là, on est dans le Negev, Yael.
D'accord, alors on reste en
Australie. Il y a Mada qui peut arriver très vite.
C'est ça.
Donc, quoi qu'il en soit, on reste calme, on allonge le blessé, voire on la met, vous savez, sur le côté, ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité, parce que des fois, on peut faire un petit malaise ou la chaleur, tout ça. Donc, on allonge le blessé. On immobilise, c'est-à-dire qu'on laisse bien droit, bien calme le membre qui a été mordu, encore une fois pour éviter la diffusion. Mmh. On rassure l'entourage. On peut évidemment désinfecter avec de l'eau, du savon. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'essentiel, ça va être d'appeler Mada, enfin d'appeler et on vous donnera les consignes. Typiquement, il faut aussi retirer tout ce qui va pouvoir serrer la zone mordue. Donc, on va retirer les bagues, les montres, les chaussures. Mais vraiment,
le contraire exact d'un garrot, quoi.
Voilà. Donc, concrètement, ne vous inquiétez pas. Les serpents, ça fait peur. Mais l'essentiel, c'est de rester calme.
D'accord. Donc, alors maintenant, toute blague mise à part, quelqu'un se fait mordre. Et c'est des choses qui malheureusement arrivent hein, chaque année en Israël, surtout au début du mois de mars-avril, quand les serpents sortent de leur hébernation, ils sont pleins de venin parce qu'ils ont, enfin, ceux qui sont venimeux, hein, n'ont pas encore mordu. Et donc, l'important, c'est de laisser la personne au calme, de la calmer, peut-être des respirations douces, et de surtout ne pas toucher à la plaie, de ne pas l'infecter encore plus qu'elle ne risque de l'être, c'est-à-dire ne pas sucer, ne pas mettre sa bouche dessus.
Exactement. Voilà. Exactement.
Et attendre les consignes du Magen David Adom.
Exactement. Exactement. On reste calme. Je vous dis après, si vous l'avez en tête, retirez quand même les bagues et les chaussures. Mais pas d'inquiétude, on reste calme et on ne touche à rien et on appelle. Et on met, on allonge, hein, très important, on allonge.
On allonge, oui, pour éviter les mouvements cardiaques trop forts.
Exact.
Merci beaucoup, docteur Ariella, de nous avoir rassuré sur les morsures de serpent qui sont peut-être pas aussi graves que ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Quoi de neuf, docteur Ariella.
Merci beaucoup, Yael.
Bonsoir, Yael Ifra.
Bonsoir Yaël.
Merci d'être avec nous ce soir. On a pas mal d'actualités. Alors tout est un peu mêlé, hein. C'est de la consommation, c'est de l'économie, mais c'est évidemment de la politique. On va commencer tout d'abord avec cette nouvelle qu'on apprend cette semaine. McDo Monde, donc McDonald's, rachète toutes les franchises israéliennes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça va changer au sein de notre consommation, nous, les Israéliens? Et est-ce que ça s'agit quoi, d'une punition, d'un boycott? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien oui, Yael, c'est une de ces occurrences où la géopolitique vient s'inviter dans notre vie quotidienne et en l'occurrence dans les loisirs, on va dire des gens un petit peu plus jeunes hein, qui mangent dans les fast-food de McDonald's. En fait, c'est une histoire qui est assez simple qui vient montrer surtout l'influence énorme et la capacité de ce conflit entre Israël et le Hamas d'avoir de créer une onde de choc qui va se répercuter dans le monde entier avec des véritables conséquences économiques très très fortes. Alors si l'on reprend, McDonald's Israël et donc a été une des premières marques internationales à braver le boycott des pays arabes et à ouvrir en Israël en 1993 avec un premier restaurant donc dans le canyon Ayalon à Tel Aviv qui est devenu, Yael, écoutez-moi bien, le restaurant le plus profitable du monde pour McDonald's, avec une queue qui s'étendait dans la rue jusqu'au parking du canyon, avec, vous connaissez, l'engouement des Israéliens hein, pour les marques internationales, et puis une volonté de reconnaissance. Hein. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec Coca et Pepsi, lorsque Pepsi a boycotté Israël, alors que Coca a fait un geste via ce monsieur Rubinstein qui avait obtenu la licence Coca-Cola et avait ouvert une usine à Bnei Brak. Et donc, en fait, les Israéliens, toujours, sont reconnaissants et viennent massivement acheter chez les marques qui ne les boycottent pas et qui montrent qu'ils sont capables d'être audacieux. Donc, ça fait maintenant 30 ans que Omri Padan est donc le franchisé historique de McDonald's, tout juste 30 ans, et qu'il en a fait une success story incroyable, ouvrant 225 restaurants en Israël, hein, c'est quand même beaucoup pour un pays qui n'est quand même pas si grand. Il y a 5000 salariés, c'est un succès immense. McDonald's, c'est la plus grande enseigne de restaurants en Israël, 1,5 milliard de shekels de chiffre d'affaires, donc véritablement une locomotive, y compris au niveau monde pour McDonald's, parce que bon, bien sûr, chaque pays a sa taille, hein, c'est évident, mais c'est quand même quelque chose qui était une vraie fierté.
Et une surprise aussi, du coup, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de marques internationales qui n'ont pas marché. Je pense à Starbucks, je pense à Gap, je pense à plein de marques qui cartonnent dans le monde entier et qui, pour le coup, en Israël, n'ont pas fait fureur, quoi.
Absolument, Yael, vous avez tout à fait raison, y compris la semaine dernière, 7-Eleven, qui arrivait il y a à peine un an, qui plie déjà boutique et qui va fermer. Mais oui, au niveau de l'alimentation, il y a eu Wendy's, il y a eu Quick, Wendy's a essayé d'ouvrir, il y a toutes sortes d'enseignes, Cheesecake Factory, enfin toutes sortes d'enseignes.
Mais j'étais où, moi ? Je leur aurais fait leur chiffre d'affaires si j'avais su.
Il devait pas être au courant.
Mais non, il fallait me dire, je serais allée juste pour les soutenir.
Pour les gars. Pour leurs meilleurs clients.
Je me rappelle la queue qu'il y a eu devant H&M quand ils ont ouvert aussi.
Absolument. Ouais. Et là, en plus, c'est vraiment bon. Enfin, McDonald's, c'est devenu une enseigne qu'on voit en Israël partout. Ouais. Vraiment, et qui a tué d'ailleurs l'enseigne locale Burger Ranch, hein, qui a quasiment disparu, enfin, qui existe encore, mais de façon beaucoup moins forte. Y compris, vous souvenez-vous, quand ils ont décroché la franchise, qu'ils ont écarté Burger Ranch de l'aéroport Ben Gurion, il y a quelques années, avec une offre qui était extrêmement généreuse. Bon, en tout cas, c'est un symbole et c'est une enseigne importante. importante. Et donc, évidemment, lorsque la guerre a éclaté, dans un geste citoyen dont on aurait aimé qu'il soit un peu plus répandu, hein, Yaël, on en avait parlé à cette époque, hein, de l'insuffisance de la participation du secteur des affaires en Israël à l'effort de guerre, eh bien, Omri Padan a offert des milliers de repas aux soldats de Tsahal. Il a offert des milliers de repas, plutôt des dizaines de milliers de repas aux évacués des kibboutzim et des localités du Negev occidental, hein, du Otef Aza. Il a offert également 50% de réduction à tous les personnels de santé et à tout le personnel des forces de sécurité en Israël. Et donc, ça a été extrêmement mal vu dans les autres pays, en particulier dans les pays arabes, et on a pu assister à une vague de boycott, mais énorme, qui a balayé tout le monde arabe depuis l'Indonésie, en passant par la Malaisie, en passant par la Jordanie, mais véritablement quelque chose d'extrêmement violent, Yaël, puisqu'il y a eu des restaurants McDonald's qui ont été vandalisés. Il y a eu des manifestations de soutien au Hamas organisées à l'entrée des restaurants McDonald's au Caire, par exemple, en Turquie, au Liban. Et McDonald's a véritablement vu les résultats, enfin, à savoir que ça a été vraiment catastrophique. L'action McDonald's a dévissé de 10%. Dans certains pays musulmans, on a enregistré un effondrement des ventes de 50 à 90%. Rendez-vous compte de l'effet de boycott énorme dans des pays. Si vous pensez que l'Indonésie, c'est un pays qui a pratiquement, qui a, je crois, 800 millions d'habitants, ça rigole pas du tout pour McDonald's quand tout d'un coup, tous ces restaurants se mettent à être boycottés. Même si les ventes en Europe de l'Ouest et aux États-Unis n'ont pas été impactées, eh bien, la direction monde de McDonald's a senti un petit peu le vent qui lui soufflait dans les oreilles. Et il s'est dépêché de prendre des mesures. Et donc, on peut penser, même si aucune raison n'a été donnée, hein, à cette annonce très très brutale dont personne n'avait jamais entendu parler avant, du rachat de la totalité des restaurants, donc des 225 restaurants, tout d'un coup, une annonce, les franchisés, donc qui sont une espèce de petit club hein, en Israël, où tout le monde connaît, tout le monde, ont bien témoigné qu'ils n'avaient jamais entendu parler du fait que l'enseigne McDonald's était à vendre, que sinon, évidemment, il se serait, de nombreux candidats se seraient probablement présentés. Et donc, on n'a pas tellement d'autre choix, Yaël, que de penser que c'est une décision totalement politique et que cet Omri Padan, donc M. Omri Padan, qui a déjà plus de 70 ans, hein, et qui est en fait un des fondateurs de Shalom Arshav, c'est complètement
c'est,
fou comme
histoire. C'est cocasse comme...
Absolument. Ben, c'est un sioniste patriote.
Oui, hein, oui, mais
ses opinions politiques ne sont peut-être pas des opinions qui sont complètement au centre. Mais en tout cas, il n'était probablement aussi pas très docile. Et on peut imaginer que comme c'est un activiste politique historique, eh bien, quand on lui a dit « Ouais, c'est pas super, est-ce que tu pourrais arrêter d'offrir des repas aux soldats ?» Peut-être qu'on lui a dit ça. Et peut-être qu'il a dit « Il n'en est pas question, je ne le ferai jamais. » Et donc, McDonald's lui a fait, comme qui dirait, une offre qu'on ne peut pas refuser, puisqu'il aurait fait un exit spectaculaire de plus d'un milliard de shekels. Il a donc de quoi voir venir pour les années à venir. Et pour l'instant, aucun repreneur ne s'est présenté. Et McDonald's, selon moi, hein, ça n'a plus pas été annoncé où que ce soit Yaël, mais très probablement va se garder les restaurants sous le coude avec probablement une gestion intérimaire en attendant qu'un repreneur se présente. Mais surtout, à mon avis, ils veulent attendre la fin de la guerre en faisant profil bas, en évitant d'énerver les habitants et les consommateurs des pays musulmans qui soutiennent le Hamas. Donc on a parlé de la Turquie dont on va reparler après, mais pas seulement, et essayer de redresser la valeur de l'action McDonald's. Donc il y a deux enseignements qui sont incroyables. C'est d'une part le fait qu'un tout petit pays comme Israël, hein, parce que je vous dis, hein, qu'est-ce que c'est les 10 millions d'habitants d'Israël face aux 800 millions d'habitants de l'Indonésie, c'est rien du tout. Donc ce conflit focalise des passions et des colères et des ressentiments et des actions politiques de boycott qui sont absolument énormes. Ça, c'est d'une part très important, et d'autre part, les effets sur une compagnie mondiale, une des plus grosses multinationales du monde, à cause de repas offerts aux soldats de Tsahal à l'occasion de la guerre, voit son action dévissée. est obligé d'effacer de son bilan les prévisions de profit qu'il allait faire cette année parce qu'elles ont complètement disparu. En fait, ça a quasiment effacé la marge prévue de McDonald's pour cette année et prend immédiatement des mesures. Alors là, c'est, je vous l'ai dit avec le sourire, mais en fait, c'est quand même pas très réjouissant dans le sens où on peut imaginer que d'autres enseignes internationales présentes en Israël pourrait se dire que bon bah c'est pas le moment de s'énerver et pourrait vouloir éviter tout propos qui soit trop pro-israélien. Or, les consommateurs qui achètent ces produits en Israël, ce sont les familles israéliennes qui servent à l'armée, pour la plus grande partie à elles, on en a déjà parlé, qui payent des impôts en Israël et qui s'attendent à ce que leur consommation reflète leurs valeurs. Et donc, eh bien, moi j'invite tous les consommateurs israéliens, quels qu'ils soient, à être très attentifs à l'attitude de ces grandes marques auxquelles on donne notre argent quotidiennement, et à bien savoir que si ces valeurs ne sont pas alignées avec celles que nous avons décidé de défendre en tant que pays libre et démocratique, eh bien, il faut mettre son argent ailleurs et ne surtout pas avoir peur. Ce qui est important, c'est que quand on vient vendre en Israël, quand on vient s'installer en Israël, on le sait, les prix sont élevés, on a des consommateurs qui sont fidèles, qui dépensent beaucoup d'argent. Hein. Bon, on le dit assez, Yael, hein, que ce sont des frayeurs et qu'ils se font avoir. Mais on vient pour tous ces avantages, hein, on peut parler d'IKEA aussi, hein, exactement la même chose. Eh bien, il y a le plus et il y a le moins. Et donc, si ces marques internationales désirent rester en Israël, il faut savoir que le consommateur israélien, lui aussi, peut voter avec son argent et pas que les consommateurs des autres pays.
Ça, c'est vraiment une décision à prendre et c'est très simple. Hein. Moi, je dis que Burger Ranch, c'était très bon. Il n'y a pas de raison de pas les soutenir maintenant en ces temps particuliers. Alors, un deuxième mouvement qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, c'est le nouvel éternuement de Erdogan en Turquie qui, lui, bloque toutes les ventes de matériaux de construction vers Israël. Alors tout d'abord, lui aussi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et surtout, qui ça va le plus impacter, les Turcs ou les Israéliens finalement?
Oui, alors bizarrement, Yael, vous voyez, pour ce coup-là, je pense que c'est véritablement un phénomène qui est à très court terme parce que Israël et la Turquie ont des relations commerciales extrêmement anciennes qui certes ont déjà connu des hauts et des bas hein, en fonction des événements comme le Marmara par exemple à l'époque, mais qui se sont toujours redressées. D'abord, il y a une proximité géographique. Ensuite, il y a une véritable dépendance de nombreux industriels turcs envers leurs acheteurs israéliens puisque Israël importe pour quasiment 7 milliards de dollars de marchandises de Turquie chaque année. Et donc, effectivement, c'est un geste politique qui est une fois de plus destiné à apaiser la population, qu'il faut replacer dans un contexte électoral, puisque Recep Tayyip Erdogan a pris une raclée électorale la semaine dernière au municipal de Turquie, où son parti a été laminé dans de nombreuses villes par le parti islamiste. Donc, il s'agit d'être plus royaliste que le roi. Et donc, il a voulu se joindre au groupe des pays qui larguent de l'aide humanitaire sur Gaza, donc avec la Jordanie, les Émirats arabes unis, les États-Unis, etc. Et Israël, qui a le droit de veto sur cette décision, a refusé. Et donc,
a refusé l'aide turque. Précisons.
A refusé que la Turquie largue de l'aide humanitaire au-dessus de Gaza, d'accord, estimant probablement que les mesures sont largement suffisantes. Hein, donc il y a quand même 500 camions qui sont rentrés hier. Oui, oui. Gaza aujourd'hui est littéralement inondé d'aide humanitaire par la mer, par l'air, par la terre. Et donc Israël a probablement jugé que ça venait un peu tard, que ce n'était pas forcément la peine de faire plaisir à la Turquie, qui n'est pas spécialement sympathique. Et on le rappelle, hein, parce qu'on en a très très longuement parlé lors de notre série sur les finances du Hamas, qui est le principal hébergeur financier et politique du Hamas, où une partie de la direction vit encore avec des hommes de paille, des entreprises, donc il n'est pas forcément question de leur faire plaisir. Et donc c'est pourquoi la plupart des acteurs du secteur, y compris du bâtiment, ne sont pas trop inquiets. D'abord, dès le début de la guerre, tous les promoteurs immobiliers et puis toutes les personnes qui fabriquent des produits semi-finis pour l'industrie du bâtiment ont fait des énormes stocks. Donc, a priori, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite, on avait relocalisé un grand nombre d'importations en Turquie suite au corona, et parce qu'on ne pouvait plus importer, vous vous souvenez, hein, d'Asie à l'époque et de Chine. Donc on peut très très bien recommencer à reventiler ces importations pour venir d'autres endroits. Donc pour l'instant, ne surtout pas écouter les cris d'orfraie de tous les gens du secteur du bâtiment. Moi-même, je regardais hier, je me disais, mais c'est incroyable, à chaque fois qu'il y a un article sur l'immobilier, sur le bâtiment, la phrase qui finit, c'est toujours, nous n'aurons pas le choix que d'augmenter les prix. Voilà, donc en fait, tout est fait pour faire peur aux Israéliens, parce que le marché est au plus bas, les enjoindre peut-être à acheter maintenant en se disant, oh là là, les prix vont augmenter. Il y a toujours une bonne raison pour laquelle les prix augmentent en Israël. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Les relations commerciales, en plus, entre la Turquie et Israël, sont séparées du politique, aussi bien les industriels.
Bah non, la preuve que non.
Oui, mais les industriels turcs, comme les industriels les industriels israéliens ont fait des tonnes de déclarations très apaisantes sur le thème « Nous savons faire la part des choses, nous séparons politique et business, nous sommes un partenaire commercial important de la Turquie. » Et c'est vrai. Donc je pense que là, c'est plus un coup d'épée dans l'eau, c'est destiné à apaiser l'opinion et ça m'étonnerait que ça soit à long terme. Je pense, de façon paradoxale, hein, Yaël, que la fuite des grandes marques qui nuit à l'image d'Israël est finalement plus embêtante que des déclarations par un homme politique dont tout le monde sait qu'il est extrémiste et que de toute façon il n'est pas vraiment un grand démocrate, et que finalement ce qui est inquiétant, c'est plutôt le statut d'Israël à travers le monde et la façon dont il se reflète aux yeux des grandes sociétés internationales. Des multinationales, il y en a beaucoup. On ne voudrait pas perdre des sièges de recherche et développement, par exemple, pour des grandes entreprises, à espérer que la qualité des cerveaux israéliens, la qualité de l'innovation, la qualité de la recherche fera que ça ne se passera pas. Pour l'instant, on ne voit rien. Même si la high-tech israélienne est en chute, elle se maintient. Il y a eu des bons rounds de financement, il y a eu des levées de fonds, et il faut espérer que tout ça se dissipera une fois la guerre terminée.
C'est tout ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup Yaël Ifra pour cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Canon Français.
Merci Yaël.
Bonsoir Ram Menachem.
Bonsoir.
Bon, déjà, merci beaucoup d'être présent à notre magazine ce soir. Je vais commencer par dire que c'est la première fois que vous nous rejoignez, mais ça ne sera pas la dernière, puisque vous allez nous présenter une nouvelle mini-série qui va avoir lieu ici sur les ondes de Cannes en français. Alors, avant qu'on parle de ce projet extrêmement intéressant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, vous présenter pour que les auditeurs de Cannes en français apprennent à vous connaître?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ram et je suis en train de finir mon licence à l'Université de Tel Aviv en culture française et en lettres. Et il y a un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, c'est le sujet de genre et surtout la masculinité. Et oui, je suis également un musicien et producteur de bandes originales de films.
Oui, et donc Ram Menachem, on peut dire que vous allez ici à Cannes un peu réunir vos deux amours, à savoir le cinéma et les études de genre, et plus particulièrement la masculinité, puisque nous allons parler pendant les cinq prochaines à venir de la masculinité israélienne dans un nouveau podcast de Cannes en français, M'expliquer la masculinité israélienne dans le cinéma. Alors Ram Menachem, est-ce que vous pouvez un petit peu commencer déjà par nous parler qu'est-ce que c'est en fait la masculinité, parce qu'on a tous une idée plus ou moins vague. Je sais pas, moi je pense masculinité, je pense un homme avec un débardeur et des gros muscles, mais c'est pas forcément ça.
Oui, moi je pense que c'est aussi intéressant avant de parler qu'est-ce que c'est la masculinité, de poser la question pourquoi parler de la masculinité. Parce que la majorité des écrits théorétiques et littéraires, cinématographiques, sont trop longtemps été produits par des hommes et traitement des hommes. Mais la masculinité, c'est quelque chose comme un genre d'instinct. C'est quelque chose qui est un peu nouveau dans l'académie. Et la masculinité, c'est une genre. Et moi, je pense qu'une dialectique très, très intéressante, c'est que la masculinité, c'est d'un part, c'est une genre invisible. Il y a des recherches qui parlent...
Comme la entre guillemets, race blanche est aussi invisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'études sur ce que c'est que l'expérience d'être blanc.
Oui, exactement. Et aussi avec des interviews avec des hommes, et les hommes ont tendance de dire que genre, c'est quelque chose qui n'est pas très, très significant pour eux. C'est quelque chose un peu neutre. Ils ne voient pas le genre. Pour eux, c'est quelque chose un peu par défaut. Alors ça, c'est d'un part, c'est quelque chose très neutre et naturel, presque invisible. Mais de l'autre côté, et la masculinité, c'est quelque chose qu'il faut toujours, toujours prouver par des rituels, par des rites de passage. On peut voir ça dans le mouvement de la jeunesse. Et la masculinité, c'est quelque chose qui est toujours sous surveillance. Alors, il y a un peu le contradictoire.
C'est un paradoxe intéressant. Quelque chose de complètement transparent qu'on doit prouver constamment.
Oui, exactement.
Et comment vous l'expliquez ?
Pierre Bourdieu parle de ça un peu dans La domination masculine, dans son livre.
Pierre Bourdieu, je rappelle juste pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, sociologue, on pourrait dire un genre de père de la sociologie.
Et ils disent que la force de l'ordre masculin, c'est voir au fait qu'il passe toujours dans la neutralité et comme ça maintenir le pouvoir comme beaucoup d'autres choses qui... Si on ne parle pas, on ne peut pas changer. Si c'est quelque chose d'invisible, alors c'est beaucoup plus difficile de déconstruire.
Qu'est-ce que vous entendez par déconstruire ? Parce que c'est un terme aussi extrêmement bourdieusien.
Oui. D'abord, c'est juste de voir plus clairement qu'il y a un genre, il y a des choses qui sont différentes. Il y a des tendances différentes. Et déconstruire, c'est un peu parler de... Oui, d'abord faire conscience pour moi. Et après qu'on a conscience de la problématique, on peut réfléchir à un peu changer. Ça, c'est un peu la destruction pour moi. Je veux pas une déconstruction totale. Je veux juste faire des choses invisibles un peu plus visibles et plus visibles.
C'est ça, en fait. Donc, déconstruire un concept, c'est ne pas l'accepter tel qu'il est, c'est le regarder d'un angle différent, essayer de regarder, en fait, sous le capot d'un concept. La masculinité, ce n'est pas seulement ce que l'on pense, et essayons de la déconstruire, la décomposer en de petits éléments qui la composent. Alors, oui. Avant qu'on parle donc du programme et des différents thèmes de la masculinité et surtout de la masculinité israélienne dont on va discuter, moi j'ai une petite question à vous poser qui a à voir avec l'actualité. Alors, nous sommes au summum de la menace de la guerre avec l'Iran depuis certains jours. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la semaine dernière, un des hauts dirigeants des Gardiens de la Révolution aurait été assassiné dans une frappe qui serait prétendument israélienne à Damas. L'Iran a réagi en disant qu'il ne laisserait pas une telle attaque se faire sans représailles. Et donc, aux États-Unis, en Israël, on est en état d'alerte maximale, puisqu'on attend donc une riposte iranienne. Est-ce que vous considérez que dans cette interaction, il y a des marques de la masculinité moderne ou pas, d'ailleurs ?
Oui, bien sûr, il y a une très grande question que moi, je ne suis pas un expert de sécurité nationale et de géopolitique, mais c'est très pertinent parce que la géopolitique est souvent pas un sujet seulement qui ont lieu dans le département des sciences sociales, des sciences politiques. C'est aussi un domaine des humanités qui parle de relations entre hommes. Et ici, homme, c'est relation entre deux, entre surtout des hommes. Et ben, moi, je pense que c'est pertinent, c'est très pertinent. Et il y a une très grande question, c'est quoi le but? Est-ce que le but est seulement sécurité nationale et géopolitique, ou c'est aussi une manière émotionnelle de faire de oui hein, une réaction émotionnelle, mm-hmm. une réaction qui les résultats sont pas très clairs. Ça c'est une question. Moi je suis pas expert de détails de cette attaque, mais je pense que c'est toujours bien de demander est-ce qu'il y a un plan. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est aussi émotionnel, qui est aussi une réaction qui va provoquer une contre-réaction?
Mm-hmm. Ben, c'est surtout que c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser parce qu'on ne pense pas aux pays comme des entités capables d'émotions. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit un petit peu plus tôt sur ce dont Moss parle sur la masculinité, que c'est quelque chose qu'on doit sans cesse prouver via des rituels. Vous parlez donc de rituels qui sont effectués à l'enfance, mais aussi plus tard, ça a l'air d'être cette riposte iranienne ou cette espèce de guerre de dissuasion. Ça a l'air d'être un rituel de masculinité, c'est-à-dire de montrer que si on m'attaque, je vais forcément être forcé de réagir, même si cela peut avoir des conséquences néfastes sur moi. En l'occurrence, l'Iran a tout à perdre de rentrer dans une guerre ouverte avec Israël, et inversement.
Oui, oui, exactement. Et je pense que dans cette guerre, je le vois très, très dominant, le discours d'honneur, le discours d'honneur qui n'est pas très un discours de géopolitique. Mais je vois, ça c'est mon avis personnel, mais moi je vois qu'il est le désir de retrouver le nord israélien, c'est quelque chose qui est très, très dominant dans le discours. Et c'est aussi parfois le désir de faire une réaction plus grande. Et ça, c'est pas un plan c'est pas un programme, c'est pas un plan stratégique. Ça, on déjà parle de choses, on a déjà commencé de parler de choses plus humaines, plus
d'intimidation, de tenir ses principes, de ne pas céder, etc. Mmh. Alors, parlez-nous un petit peu, Ram Menachem, de notre superbe programme dans M'expliquer.
Oui, alors on a pensé un peu de faire, de parler de films, parce que cinéma c'est aussi toujours un plaisir de parler de films, mm-hmm. Mais c'est aussi très pertinent et intéressant de voir un peu cet ensemble de masculinité avec toutes les nuances et pas seulement dans le livre de histoire et sociologie et genre. Et bah, on va commencer dans le premier épisode de parler de le film Kuni Lemel, un film yiddish très très intéressant qui est basé sur une pièce de théâtre. Et ça, c'est aussi une monde entier de théâtre yiddish. Et moi, on va parler avec Hana Pauline Galay, qui est une chercheuse qui fait une recherche sur le culture yiddish comme culture féminin. Et ça, c'est très... Oui, on parle de avant l'établissement d'Israël comme un pays. Et ça, c'est un peu plus la masculinité juive, et qui est un sujet très, très, très intéressant. Et dans le deuxième épisode, on va parler d'un film de début de Zionisme et qui s'appelle Oualach Basadot. Il se promène
dans les champs.
Oui, il se promène dans le champ. Et ça, c'est un film qui nous montre vraiment le militarisme israélien et par rapport à la masculinité. Et on va parler avec le chercheur Uri Shin Cohen, qui parle un peu de cette dynamique dans l'armée et l'armée israélienne entre un peu le milice, la culture de milice, la culture qui réagit et qui fait pas des choses très très organisées et stratégiques et sérieuses, mais un peu réagit comme un milice entre et par contre le culture et militariste comme quelque chose très très organisé qui est oui qui est par rapport au pays de plan et de et ça c'est un peu une dynamique qui est toujours dans l'armée entre les choses qui est un peu un peu dehors de cadre et le culture de cadre et ça c'est une dynamique très 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 masculin. C'est oui la manière que la masculinité c'est quelque chose parfois qui est très très je sais pas comment dire
carré
opaque
oui
carré très très carré et qui t'as pas le pouvoir vous n'avez pas de pouvoir de crier d'exprimer les émotions mais en même temps c'est il y a un peu le manière de masculinité qui fait des choses un peu dangereuses, qui fume, qui boit d'alcool, de whisky.